OK.
D'accord. Soyez les bienvenus. C'est Madame la Présidente qui parle. Soyez les bienvenus à l'ASONRO. Il y a eu plusieurs membres du GAC qui ont été intéressés à nous éclairer sur cette question. Et c'est quelque chose sur quoi la communauté a travaillé. C'est pour cela que je passe la parole à M. John Tarrant, qui va se présenter de lui-même et qu'il présenterait. C'est John Karen. Je m'appelle John Karen. Je suis le président de la RPKI, qui est l'organisation de soutien de l'ICANN pour ce qui est des adresses. À mes côtés, il y a dans cette table le président de l'organisation de conseil de support pour les noms qui s'appelle Louis Lee. C'est un conseiller, un consultant. Nous avons les PDG des RIR qui constituent plusieurs de ces organisations, moi-même y compris, ainsi que Aaron, Raoul Echeverria pour l'ACNIC, Paul Wilson pour APNIC, et Adiel pour AFRINIC. Nous allons aussi présenter des questions sur le RPKI. Il y aura Jeff Houston qui va parler à partir de maintenant. Merci, Jeff. C'est Jeff qui prend la parole. Bonjour à tous. Cette présentation est une présentation très technique parce qu'elle s'occupe de technologies que nous n'utilisons pas normalement ou que nous ne sommes pas habitués à voir en général. Il s'agit de technologies liées à la sécurité de notre infrastructure et de nos communications. Il est intéressant de savoir qu'il y a beaucoup de raisons d'être méchant sur Internet, qu'il y a beaucoup de façons de faire des choses perverses sur Internet. Bien sûr, on peut envoyer beaucoup de pourriels et on peut essayer de corrompre l'exploitation du système de DNS, et le DNS est constamment soumis à des attaques. On peut aussi essayer d'envoyer des paquets très particuliers vers certains ordinateurs pour qu'ils fassent certaines choses qu'ils n'auraient jamais l'intention de faire. Il en va de même pour les virus, parce que les virus modifient l'exploitation du système qu'ils infectent. Mais il y a d'autres attaques qui sont même plus gênantes. Ces attaques n'essaient pas de modifier le fonctionnement de votre machine. Dans la mesure où l'ordinateur fonctionne bien, l'attaque est plus. Ces deux types d'attaques ne surviennent pas dans les ordinateurs individuels, mais aussi dans la structure d'Internet en elle-même. La première se produit sur le nom de domaine, et c'est quelque chose sur quoi on est vraiment familiarisé depuis très, très longtemps. Et les efforts pour présenter des solutions par rapport à la sécurité du DNS et de sa mise en œuvre, comme nous le voyons ici dans cette réunion, d'ICANN sont déjà en marche. Il y a beaucoup d'ateliers, une forte activité et une forte compréhension de la question. Le routage est différent. Le routage est un problème très difficile, vraiment, pour pouvoir comprendre comment rediriger ces paquets vers leur destination. Il faut utiliser des algorithmes très sophistiqués qui ont été établis. Le routage, donc, est un problème très difficile, même en termes de technologie sous-jacente. Lorsque nous avons construit pour la première fois les systèmes de routage, et je vais 40 ans en arrière, je vais dans les années 60, cela a été fait dans un milieu de recherche. Et le milieu de la recherche tend à penser à certaines choses vraiment élémentaires. Et l'une de ces questions, justement, concernait certains joueurs, disons. Tout le monde a fait la même supposition. Les algorithmes sont basés sur la confiance mutuelle. C'est quelque chose de très important pour Internet. La confiance mutuelle n'est pas le fait courant dans notre entourage, dans notre milieu. Comment faire si nous n'acceptons pas que tout le monde, que tous sont des bons joueurs? Quelle est la réponse? La réponse est que tout le monde doit tout vérifier. Mais cette fonction de vérification est extraordinairement difficile parce que chacun des joueurs qui fait un routage, doit réunir beaucoup d'informations tout le temps sur les adresses, sur les politiques de routage. Donc, il n'y a pas de directoire centralisé, il n'y a pas de répertoire centralisé sur cela. Il s'agit d'un travail très difficile. Donc, au lieu de faire cela, nous allons appliquer une solution qui est efficace en ce qui concerne le coût. Et cette efficacité dans les coûts revient à dire qu'à la limite, il y a certains points un peu vagues. Il y a des choses qui se passent. Le système est insécure. Il y a des incidents vraiment remarquables par le passé. Beaucoup d'entre vous qui êtes dans le domaine de la sécurité, vous êtes sûr et conscient d'un incident qui a eu lieu pendant deux heures, il y a deux années, où un ISP dans le domaine de l'Asie, dans la zone asiatique, a pu bloquer l'accès à Internet sur une bonne partie de la planète. Et la plupart de ces incidents que nous voyons sont le résultat du voyage que font certains doigts. Parfois, les choses marchent mal et elles se propagent sur l'Internet. Mais les questions d'aujourd'hui sont les vulnérabilités de demain. Il se peut qu'il y ait des choses que l'on fasse accidentellement et d'autres que l'on fasse à propos. Le système dans lequel nous travaillons n'est pas bon. Vous pouvez voir que vos systèmes peuvent être parfaitement sûrs. Votre notebook peut être extraordinairement sûr, etc., et que ça peut fonctionner parfaitement bien. Mais si le système de routage est compromis, les paquets ne parviendront pas à leur destination. Et ils peuvent passer par certains points qui n'étaient pas prévus, non souhaité, et parvenir à une autre destination. Il est évident que nous pouvons voir chacun des paquets. Les paquets sont trop nombreux. Nous ne pouvons pas tout prendre en compte. Bien sûr, nous pouvons équiper les routeurs de personnes qui soient derrière eux. Nous devons chercher un problème automatisé, un système automatisé qui travaille à la même vitesse des routeurs. Il faut donc mettre un élément de discrimination dans notre infrastructure qui nous permet de détecter et d'exclure les essais ou les tentatives de mettre une information fausse sur le système de routage. Il faut pouvoir distinguer le bon du mauvais de façon automatique.
Il y a très peu d'outils de base pour réussir à cela dans le système public. Comme on va vous dire, dans la cryptographie, il est facile de créer des cryptographies très sécurisées d'une seule fois, mais c'est pas comme ça que l'Internet fonctionne. Il est facile de créer des systèmes cryptographiques lorsque les deux parties vont échanger des informations et trouver et échanger des secrets. Hein. Nous n'avons pas ce système. Dans notre système, les parties essaient d'échanger des informations. Elles ne se sont jamais réunies. Elles ne vont jamais se retrouver. Elles ne peuvent pas non plus se retrouver. Cela limite la possibilité des outils dont nous disposons à un ensemble très restreint, et cet ensemble est celui de la cryptographie publique. Ce que nous utilisons est des signatures numériques conventionnelles qui est une clé privée, et cette clé privée peut la débloquer. C'est la seule pouvant la débloquer avec un appareil numérique. La chose suivante, c'est comment envoyer ces clés publiques le long du réseau, comment on distribue tout cela, comment on fait pour que ceci soit injecté dans le réseau. Alors, il faut comprendre en premier lieu la manière dont on décrit la confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance? Moi, j'ai une adresse, mon adresse IP est un numéro, c'est bizarre, non? 3, 10, 1 million, 220. Comment le reste du monde va-t-il savoir que cette adresse IP est valide? Parce que L'Internet doit travailler d'une manière unique parce qu'il y a un système qui alloue d'une manière, qui attribue les adresses vers un système. Il s'agit du cadre d'allocation d'adresses. Il y a une hiérarchie qui fait l'allocation, puis on l'envoie, cela passe par Yana et puis on l'envoie dans les registres locaux. Au terminal des ordinateurs. Moi, j'ai mon nom unique parce que APNIC me l'a octroyé. Et le numéro APNIC est unique parce que Yana l'a octroyé à APNIC. Si l'on pourrait décrire cette chaîne, on aurait donc la possibilité de créer de la confiance. Ce que l'on fait, ce n'est pas d'obtenir de nouvelles données. Ce que l'on essaie, c'est de reformater pour que les mécanismes d'authentification soient vraiment efficaces. Cela nous amène au concept d'un certificat de ressources. Un certificat est un appareil assez vieux dans notre monde. Il y a des certificats numériques, le certificat X509, qui est là depuis plusieurs décennies. Il s'agit d'un document numérique qui réunit des ressources de numéros et qu'il est public. Il signe les clés privées avec les certificats. C'est donc un appareil capable de valider et de signer quelque chose en disant, eh bien, cette adresse m'appartient. Vous pourrez vous rendre compte si je suis en ligne ou pas, si je mens ou pas. Vous pourrez authentifier mon affirmation. Cela est quelque chose de vraiment important. Hein? Et ce n'est pas quelque chose que le RIR a inventé. Je peux dire que nous avons travaillé conjointement comme RIR et dans la force de travail du génie Internet depuis 2006 pour créer une technologie viable et des standards permettant de construire et d'exploiter cela de la manière appropriée. Il s'agit donc d'une approche qui regarde vers l'avant. C'est une manière de publier les mêmes données que nous publions toujours. Il s'agit d'un format différent parce que maintenant, ces certificats X509 sont... C'est-à-dire, c'est justement ce genre de certificat que l'on utilise et ceux qui l'utilisent, justement, ont la sécurité que la clé est associée avec les adresses IP sans aucun doute et cela est dérivé directement de la base de données d'enregistrement sous-jacente. Donc, on a là la même information. Nous avons maintenant ce concept, c'est comme la hiérarchie des noms de domaine. Il s'agit d'une hiérarchie de certificats numériques connus dans le monde de la sécurité parce qu'ils adorent inventer de nouveaux termes. Ils créent de nouveaux mots alors qu'on pourrait utiliser les vieux mots sans aucun problème. Mais bon, on parle de ressources PKI. Il s'agit d'une hiérarchie de certificats qui nous parle non seulement de mon identité, pas sur mon rôle, pas de ce que parle normalement ce genre de certificat. Il s'agit d'une hiérarchie qui parle des ressources numériques de l'IP. Et cela permet des déclarations comme par exemple, eh bien, moi, je suis le propriétaire d'une adresse en particulier et cette adresse peut être signée de manière digitale pour n'importe qui d'autre. Et toute autre personne peut vérifier si cette affirmation est véritable ou non. Lorsque je dis n'importe qui, je dis vraiment n'importe qui, hein, ou n'importe quoi. Même n'importe quel routeur, n'importe quel élément de switching au sein du réseau et même toute interface de commande ou de contrôle pour le soutien opérationnel du réseau. Parce qu'on peut mentionner des choses qui sont liées directement au routage et à l'origine des adresses Internet. Moi, Jeff, le propriétaire de 123.24 et je le suis, je peux autoriser AS 23456 et seulement ce réseau va se router envers moi. Le corollaire, c'est que si quelqu'un essaie d'attaquer mon adresse, non seulement moi, c'est-à-dire moi, je vais savoir que l'on est en train de mentir, mais toute autre personne sur Internet va savoir qu'il y a du mensonge. C'est plus difficile de mentir quand on sait que l'on ment. Voici un nouveau développement pour nous. La sécurité est très difficile et la communauté a mené de longues discussions. On est conscient que dans plusieurs régimes, il y a eu des certificats numériques et il y a eu des intérêts pour que les régimes numériques éliminent les certificats numériques. Il y a eu des discussions au sein de la communauté concernant l'obligation de la part d'un tribunal pour altérer ou pour révoquer un certificat. Nous n'avons pas obtenu de réponse pour tout cela, mais ce que l'on observe, c'est le même processus judiciaire ou par devant les tribunaux, comme celui qui permettrait au propriétaire d'un registre de changer le contenu, de révoquer les certificats. Voilà pourquoi nous disons que nous n'avons pas de solution, mais nous n'avons pas non plus présenté ni réduit les problèmes concernant ces questions externes sur l'intégrité de la totalité du système de registre. Il s'agit d'une hiérarchie comme le DNS. Et si l'on réussit à engager la racine, l'effet va vers d'autres parties de l'infrastructure. Et si on est très haut sur l'infrastructure, les risques et les dommages sont énormes. Ceci, c'est la même chose que les certificats utilisés par Visa ou Mastercard. Si vous pensez au chaos, pensez ce qui se passerait s'ils se compromettaient, s'ils s'engageaient vraiment. Beaucoup des systèmes numériques qui sont liés à l'économie ont les mêmes problèmes. L'industrie a créé beaucoup de normes, beaucoup de standards capables d'assurer l'intégrité et l'exactitude des certificats. Ce sont des standards FIP qui essaient d'établir les clés pour gérer la question. Nous essayons de faire de notre mieux. Notre système de gestion des clés, nos certificats sont en haut vraiment des standards de l'industrie. Il y a aussi une question de résilience. Il y a des défaillances, mais le système actuel, notamment pour ce qui est de la publication des politiques, fait confiance à l'existence d'un site unique où ces politiques sont hébergées. Et c'est la manière de réaliser ces choses qui donnent l'intégrité. Les données signées, c'est différent. Si les données sont signées, elles peuvent être publiées par n'importe qui. Et toute personne recevant toute copie peut immédiatement dire si ceci est fiable, s'il s'agit d'une copie fiable de l'original, parce que du point de vue numérique, on ne peut pas le distinguer. Vous pouvez prendre une copie et la republier. Mais si on prend ceci republié, on peut assurer que c'est exactement pareil à l'original, octet par octet. Il y a d'autres questions pouvant provoquer des défaillances, mais tout cela est dans notre infrastructure. Où on en est maintenant? Nous en sommes très avancés dans le processus parce que le système de routage a des vulnérabilités. Et le système des noms de domaine d'Internet est important. Nous essayons d'avoir plus de vitesse quant à l'infrastructure de certificats. Beaucoup de registres régionaux ont essayé d'incorporer cela dans leur système. Les membres de ces communautés, notamment, peuvent créer les certificats suivant leurs souhaits depuis maintenant. On continue à travailler avec les communautés pour compléter les mises en place ou les mises en œuvre. Il y a beaucoup de travail spécialisé. Il y a des différences dans la mise en œuvre. Donc, certains ZRIR font leurs travaux de manière un peu différente, mais les résultats seront appréciés dans un futur proche. Nous travaillons sur tout cela et nous croyons que les ZRIR finissent leur travail rapidement. Les certificats ne sont pas tout, hein? Il faut les intégrer au système d'exploitation actuel. Il faut avoir APPS comme notre système. On a beaucoup travaillé avec les ZRIR, mais seulement avec IETF et d'autres organes publics pour créer le plugin, les modules plugin. Il faut aussi distribuer, synchroniser ces informations sur la validité de toutes les adresses, de tous les routages sur Internet à tout moment pour être sûr que ces données soient complètes et exactes tout le temps. En même temps, l'IETF mène un travail visant à assurer le protocole de routage spécifique PGP. Nous avons fait des progrès et nous avons résolu quelques questions liées à l'intégrité. L'intégrité des sessions. Mais maintenant, nous voyons qu'il y a un problème d'enchaînement qui nous amène à prendre une pause pour penser. Toutefois, on est optimiste et les courbes de technologie, des courbes de Moore pour une connaissance plus poussée de la cryptographie nous permettra de résoudre ces questions. Comme dans d'autres cas. Nous croyons donc que nous serons capables de le faire dans un futur proche. Nous passons à la prochaine diapo. Je crois que j'ai mentionné tout ce que je voulais et avec plaisir, je répondrai à vos questions. Merci beaucoup. Merci. C'est la présidente qui prend la parole. Je vois que la Nouvelle-Zélande a demandé la parole. Merci, dit la Nouvelle-Zélande. La question pour le GAC, y a-t-il une politique publique ou un empêchement en termes de politique publique pour réussir à se faire quelque chose que le GAC puisse faire pour accélérer la mise en œuvre de ces protocoles? Merci. Jeff Houston prend la parole. Il est vrai que certains organismes internationaux, nationaux sont conscients de cette problématique. Ils ont travaillé très activement pour soutenir la recherche et le développement dans certains organismes des États-Unis. Ils ont travaillé pendant beaucoup d'années, mais ce n'est pas les seuls. Ce n'est pas le seul pays. Nous avons vu pas mal d'autres pays qui sont conscients du problème et qui donnent leur soutien aux activités. Et ça, c'est bien. Nous n'opérons pas dans les termes des conditions et de l'immunité dans un environnement judiciaire. Mais lorsque l'on voit les certificats des communautés qui expriment leurs préoccupations, disant qu'un tribunal puisse dire qu'il faut révoquer un certificat, parce que les conséquences de cette révocation, ce n'est pas seulement qu'on ne va pas avoir cette adresse, les certificats du routage disparaissent aussi. Cela veut dire que l'on enlève la validité de la présence de cette adresse et cette adresse disparaît pour tout le reste. Et si l'on introduit la sécurité, on introduit ces autres facteurs innovants dans certains cas. Je ne suis pas sûre d'avoir toutes les réponses. Je ne peux pas répondre à toutes les inquiétudes, mais Il faut parler de cela dans les forums des politiques publiques. Madame la Présidente dit merci. John, tu voulais répondre aussi et Paul demande la parole aussi. John Curran. Pour ce qui est de l'encouragement de cette mise en œuvre, il est important de rappeler que la décision d'un fournisseur de services d'utiliser le PKI, le RPKI et d'avoir la sécurité de la politique de routage est quelque chose de volontaire. Les fournisseurs de services décident de participer de l'infrastructure RPKI. Et en faisant cela, le routage est moins vulnérable. De même, ils décident de faire attention à notre information de l'RPKI parce que lorsqu'ils reçoivent les données, l'information de routage, ils ne vont pas recevoir des informations incorrectes. Voilà pourquoi on utilise beaucoup l'RPKI et tout le monde fait attention aux données reçues. Mais pour les fournisseurs, tout cela est justement une décision volontaire. Dans notre région, il y a le Canada, les États-Unis et 26 économies des Caraïbes. Je suis conscient qu'aux États-Unis, il existe des groupes de fiabilité d'Internet, il y a un groupe de meilleures pratiques. Parrainé par la sécurité. Et bon, il y a différentes manières de percevoir cette problématique, mais ce n'est pas quelque chose que les aérières exigent. Nous sommes dans un emplacement naturel pour fournir l'infrastructure et pour l'utilisation. Et l'emplacement et tout le reste dépend d'une décision volontaire. Merci beaucoup, Paul. John a très bien travaillé sur d'autres questions qu'il faudrait rappeler pour voir le système actuel comme un système où les RIR offrent les détails d'enregistrement des adresses que nous avons allouées. Les certificats, dans une certaine manière, dans la mesure où ils ont une signature, des registres sont gérés de la même manière qu'un courriel avec une signature numérique qui indique que l'origine est véritable. John a parlé de ce processus qui est important. Le fait de considérer la décision du fournisseur à travers l'option de participer, voir que se passe-t-il dans la moitié de l'équation et de l'autre part, voir ce qui arrive avec les données reçues. Ce système a évolué de manière absolument compatible avec le processus accordé de notre système des RIR, ascendant au lieu d'être imposé. Le fait pour lequel nous faisons cette présentation, c'est que nous sentons que notre système a été en développement pendant longtemps à travers ce processus et que les RIR ont suivi le processus pendant des années. Nous trouvons que les questions sur le système ont commencé à se propager de manière plus systématique et cela est nécessaire pour que le GAC est une perspective mise à jour. Pour ce qui est du fonctionnement du système et pour nous assurer qu'il y ait une compréhension commune, eh bien, il faut penser à ce système que nous venons de décrire, différent de celui du passé. La présidente dit le Portugal, la Norvège, la Malaisie et la Commission européenne. Le Portugal, s'il vous plaît. Le Portugal prend la parole. Merci beaucoup de la clarté de la présentation. Il s'agit d'une question absolument technique et vous l'avez présentée d'une manière absolument compréhensible. Je savais du système à partir des efforts de la RIP. Ma question a trait à ce que la Nouvelle-Zélande a mentionné. Pour ce qui est du rôle du GAC, il serait intéressant de savoir qu'est-ce que vous pensez. Il s'agit de questions que nous pourrions faire du point de vue du Conseil, que nous pouvons donner. Pour être clair, je ne sais pas comment, mais du point de vue de l'approbation des politiques au niveau national ou tout simplement pour sensibiliser. Ce serait bien d'établir clairement ce que les gouvernements peuvent apporter pour cela. Merci beaucoup. Raoul prend la parole. Merci, Madame la Présidente. L'objectif pour lequel nous sommes ici en parlant de cette question avec le GAC, c'est parce que nous voulons vous commenter ce que nous faisons pour que les gouvernements soient au courant de tout cela. Je crois qu'il s'agit d'un changement important pour l'Internet. Il s'agit d'un projet que, comme Geoff l'a mentionné, a déjà beaucoup d'années de travail. Il y a un grand investissement qui a été fait en termes de temps, travail et argent. C'est important pour l'Internet et il est important que les gouvernements le connaissent. Il est probable que ce soit la manière principale où ils puissent nous aider. S'ils le souhaitent, sensibiliser. Il faut sensibiliser sur cette problématique au niveau des industries locales, comme John l'a mentionné. Il y a un cas aux États-Unis, on peut le faire un peu partout. Madame la Présidente prend la parole. Merci, Raoul. La Norvège, la Malaisie, la Commission européenne, l'Uruguay, le Royaume-Uni. Merci, Madame la Présidente. Merci, Jeff, de cette mise à jour. C'est la Norvège qui parle. Et merci de toute l'information si importante que tu nous as donnée. Je crois que pour nous, en tant que gouvernement, il est important de savoir ce qui se passe avec ce système parce que l'on prend des mesures de sécurité très importantes sur Internet. Et je voulais aussi faire des commentaires sur les questions liées aux politiques publiques. Je crois que la question que nous avons traitée nous amène à penser que nous pouvons créer conscience et aussi favoriser les meilleures pratiques dans les régions avec des réglementations dans différentes parties de l'Europe à laquelle appartient la Norvège. Nous avons les entités de régulation capables d'établir des mesures de sécurité pour les fournisseurs des services Internet si l'on considère que cela est approprié. Nous pouvons donc travailler en Norvège de cette manière-là. Nous sommes en mesure d'établir ce mandat pour les ISP norvégiens, mais je crois aussi que ceci peut devenir une meilleure pratique entre les ISP du monde. Et avec l'Internet, on ne peut pas appliquer des mesures isolées parce qu'il s'agit d'un système mondial. Alors, il est important de le voir à partir de cette perspective. Une question technique. À vrai dire, il y en a deux. Il y en a une qui est plus technique et d'autres qui a trait au délai. Quand est-ce que le système va être opérationnel? Quand est-ce que les candidatures, les routeurs vont être prêts? Et quand est-ce que l'on va réaliser la standardisation pour que ceci soit mis en place et finalisé? L'autre question est lié aux certificats. Les RIR vont avoir des certificats signés qu'ils vont pouvoir utiliser pour signer les ressources parce qu'il y a des inquiétudes ou des soucis de certains gouvernements, pas d'une autre. Et les inquiétudes concernent les RIR. Si les RIR vont avoir des certificats signés, s'ils vont être contrôlés par une autre partie. En cas de révocation du certificat, ceci pourrait gâcher toute l'Internet. Je voudrais savoir comment cette chaîne de confiance va-t-elle être construite au sein du système RPKI.
Serge, est-ce que tu veux répondre? Geoff, tu veux répondre à ça? Je vais dire quelques mots et ensuite je vais passer le micro à mon collègue. C'est Geoff qui parle. Lorsque l'on parle de meilleures pratiques par opposition à une condition réglementaire pour l'utilisation de ce type de et pour la mise en œuvre de ce type de technologie, c'est vrai que dans le DNSSC, si j'ai par exemple drjeff.poturu.net, à moins que .poturu.net soit signé. Parce que c'est ça qui est important dans l'NDNSSC, qu'il faut arriver à ce niveau de la racine. Mais notre système de routage n'a pas cette possibilité d'établir une hiérarchie du routage. Si nous avons assuré BGP et ensuite nous passons à une information de routage au moyen d'une section d'Internet qui ne met pas en œuvre cette modalité de BGP, toute l'information de sécurité est perdue. Et lorsque nous arrivons à notre point où cela a été mis en œuvre, cela ne parviendra pas à ce point. Donc, BGP est un protocole qui peut nous donner bon nombre de bénéfices. C'est l'un de ces systèmes qui, s'il était utilisé par tous, fournirait un grand bénéfice au niveau universel. Si on le fait par partie, il faut voir qui va recevoir le bénéfice et qui peut être assuré en termes de routage parce que ce bénéfice est énormément réduit finalement. Donc il faut réfléchir soigneusement à cette question sur ce qui peut être une meilleure pratique de l'infrastructure au niveau régional et international. Et il faut penser soigneusement comment élargir au plus grand nombre tout cela et ne pas imposer en même temps des coûts prohibitifs de haut risque à l'environnement et d'exploitation. Il est évident que cela fait partie d'un ordre du jour de politique publique au niveau national qui doit traiter la manière dont on effectue la mise en œuvre partie par partie pour la technologie, parce que cela n'est pas aussi bénéfique qu'une mise en œuvre à l'échelle universelle. C'est le président qui prend la parole maintenant. John, je suggérerais, nous pourrions peut-être parler de BGP un tout petit peu et nous mettre en contexte, parce que tout le monde ne connaît pas ces normes. Je m'appelle John Curran et je vais prendre les trois autres questions qui étaient implicites dans cette question explicite. En premier lieu, je veux dire que par rapport au temps, les RIR ont son propre calendrier de mise en œuvre. Et ceci pour la structure, pour les certificats numériques, que ce soit les missions ou le lien avec les fournisseurs de services. Donc, dans ce cas particulier, nous avons un calendrier il y a d'autres RIR qui sont beaucoup plus avancées que ARIN et la manière dont fonctionnent les responsabilités dans notre région est telle qu'il faut que nous prenions beaucoup de précautions pour nous assurer d'associer nos activités de signature numérique avec toutes les organisations pour qu'il n'y ait pas de rejet, c'est-à-dire que nous puissions confirmer que l'ISP a vraiment demandé ces certificats. Ceci nous demande de travailler plus fortement. C'est peut-être nous qui sommes le plus en retard. Et nous réfléchissons à une date entre cette année et la fin de l'année prochaine pour avoir ce service. Je crois que le reste des services régionaux ont déjà préparé leur propre service à l'heure actuelle. Donc, leurs délais sont beaucoup plus courts. Par rapport aux certificats utilisés par les RIR et l'encre de ce que nous appelons la confiance, l'encre de confiance, il y a beaucoup d'informations pour établir un élément numérique dans les systèmes qui suscitent la confiance. si nous parlons de plusieurs routeurs et que nous pouvons avoir ces ISP, vous pouvez configurer votre registre avec cette encre. De cette manière, vous pensez que cela a été émis sur ces 5 IRR et surtout ce qui est en dessous. Il est vrai qu'il faudrait aussi, il vaudrait mieux avoir un seul encre de confiance globale et que l'IETF puisse émettre ceci avec les arrières. Nous allons avoir une réunion avec l'équipe d'Élise Guéric pour voir que cela soit faisable. C'est là que nous allons pouvoir travailler, non pas avec 5 encres, mais avec un seul encre global qui utilise les ressources des 5 IRR avec d'autres ressources, des ressources préservées, des ressources des adresses IP réservées à des propos spécifiques. Ceci peut être configuré de façon individuelle, c'est ça qui est bon. C'est-à-dire qu'une partie qui dépend d'un seul encre, d'un seul IRR peut l'activer de cette façon ou pas. J'ai entendu dire qu'on avait parlé de régulation et de la manière dont cela peut nous aider. Il y a une étape préalable à celle de la régulation en termes d'influence et d'incidence. Beaucoup de gouvernements sont utilisateurs de la terminologie technologique. Parce que vous voulez des fournisseurs de services qui vous offrent un routage sur vous en tant que client, vous devriez leur demander de le faire. C'est une bonne manière de distribuer ou de susciter l'intérêt ou de diffuser l'intérêt que vous portez à la mise en œuvre de ces technologies. Et je ne veux pas omettre cette étape intermédiaire où vous, en tant qu'utilisateur des TIC, vous pouvez demander la qualité des services pour un routage absolument sûr. C'est Madame la Présidente qui prend la parole. Je donne la parole à la Malaisie. C'est la Malaisie qui prend la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de nous avoir présenté cette technologie. Je voudrais dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de défis à soulever pour promouvoir le DNSSC parmi nos ISP. Même si nous avons une réglementation, nous voudrions que cela se fasse de façon volontaire. Et vous devez comprendre que la mise à jour est très lente. Je suis très intéressée à la question des dates butoirs et des délais et des programmes de diffusion. Pour que nous puissions promouvoir ces technologies dans nos pays et parmi nos ISP. Merci beaucoup. C'est Madame la Présidente qui prend la parole. Est-ce que tu voudrais répondre, Adiel? C'est Adiel qui prend la parole. En termes de délai, nous travaillons tous ensemble pour pouvoir établir les mêmes délais, les mêmes dates butoirs et avancer en ce sens-là. Nous pensons à une plateforme pour pouvoir avoir des certificats et pouvoir signer. Le système est déjà en marche, il peut déjà être utilisé. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui est de sensibiliser les gens au sein du GAC pour que vous puissiez à votre tour sensibiliser à ce sujet localement. Nous avons aussi une bonne approche des fournisseurs qui ont intégré cette technologie dans l'IOS de telle façon qu'on puisse l'utiliser dans le monde réel d'Internet. Bien sûr, la mise à jour va être lente, mais elle est là et c'est sûr que nous allons pouvoir encourager les gens à s'en servir aussi vite que possible. Merci beaucoup. C'est Madame la Présidente qui prend la réponse. Nous avons la Commission européenne, l'Uruguay, le Royaume-Uni et ensuite nous allons clore la séance. Alors, la Commission européenne prend la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais remercier aussi les présentations qui ont été faites et leurs auteurs d'avoir parlé d'une technologie très importante et de la rendre compréhensible pour tous. Nous savons que ce n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi nous leur exprimons notre reconnaissance. J'ai deux questions à répondre qui peuvent avoir votre réponse par n'importe qui. En ce qui concerne l'encre de confiance, nous ne parlons que des registres Internet ou nous parlons d'autres registres qui pourraient avoir des encres fiables dans le système? Est-ce qu'il y a des conditions ou des contraintes pour une entité pour qu'elle puisse être une encre de confiance ou pour qu'elle puisse donner ce type de service à Internet, aux opérateurs Internet? Et une deuxième question, c'était au début, j'ai entendu dire au début que c'était M. Husson qui parlait du fait que la communauté s'inquiète à propos de la prise de décision impliquant la révocation du certificat numérique par l'utilisation du système d'RPKI. Je voudrais savoir si vous pouvez m'expliquer quelle partie de la communauté a cette inquiétude ou ce doute et s'il y a eu des cas de rejet ou si cela pourrait avoir lieu à court terme. En tant que Commission européenne, nous n'allons pas faire de commentaires sur ce que font ou ne font pas les communautés locales, parce que ce n'est pas notre travail, mais nous voulons savoir si cela se passe déjà ou si c'est une inquiétude hypothétique comme celle que nous, en tant qu'autorité publique, nous sommes accusés d'exposer publiquement. C'est pour ça que je vous demande de cette précision. Qui peut être un ancre fiable? C'est Geoff Houston qui parle de ça. Bon, nous allons aller revenir. Qui peut émettre des certificats démontrant que l'une des parties a une ressource? Où est la titulaire d'une ressource? En théorie, n'importe qui pourrait le faire. Mais qui doit-on croire? La partie qui a émis les ressources, et c'est la meilleure, c'est celle qui peut émettre le certificat. Donc, si APNIC crée un bloc d'adresse vers un registre Internet local,
you would probably do best.
Alors, le certificat que l'APNIC émet, c'est le certificat auquel il faut faire confiance. Et il a une autre sortie digitale. Et c'est sur cela qu'il ne faut pas faire, c'est à cela qu'il ne faut pas faire confiance. Donc, la question de la confiance a été très clairement, le modèle de confiance a été très clairement déligné, dessiné par rapport au modèle des adresses, d'allocation d'adresses. Dans la mesure où ce sera sûr, n'importe qui pourrait choisir le modèle qu'il voudra. Mais nous allons leur recommander d'utiliser l'ensemble de confiance correspondant aux agences qui allouent les ressources en premier lieu. Qu'il s'agisse de données de confiance de matériel émis par n'importe lequel des 5 IRIR ou que l'on se serve d'une entité de confiance pour décrire l'IANA, cela dépend de vous. Mais il ne serait pas très intelligent de reproduire ce que nous avons fait sur les navigateurs parce que nous avons eu davantage, plus de 100 entités, c'est trop. Donc, il vaut mieux que ce soit un nombre soit plus réduit, mais nous avons besoin d'avoir un certain, mais on n'a pas besoin d'avoir un seul nombre. Quant aux inquiétudes, il faut dire qu'elles se rapportaient plutôt au domaine européen et que cela devrait être discuté dans les forats appropriés. Malheureusement, Axel n'est pas là. Il y a eu des moments où, dans un espace différent, pour des raisons différentes, il y a eu des ordres de révocation des certificats avec d'autres objectifs des tribunaux. Est-ce que nous pouvons donc appliquer cela au certificat numérique? Nous voudrions penser que ce n'est pas possible parce que les certificats sont un miroir du contenu du registre sous-jacent et révoquer un certificat ne change en rien le registre en lui-même, mais le rend un peu plus difficile. Et je ne suis pas très sûre que cela ait été l'intention dans ces processus-là. J'aimerais bien penser qu'au fur et à mesure que l'on avance dans ce processus et que nous comprenons davantage quelle est l'intégration des attestations et la cryptographie numérique dans cette infrastructure, le risque que les sociétés, les institutions et les outils fonctionnent avec ça et qu'ils apprécient leur propre rôle et leur responsabilité par rapport à ça, la révocation n'aidera en rien. Merci beaucoup. C'est l'Uruguay qui prend la parole. Merci beaucoup, Madame la parole. Maintenant, donc, c'est l'Uruguay qui prend la parole. Merci beaucoup de la présentation. Je ne sais pas si je l'ai perdu, mais je voudrais comprendre comment cette infrastructure est liée à l'infrastructure nationale publique, non seulement par rapport au point de vue technique, mais aussi au point de vue légal. Vous savez que dans chaque pays, la valeur légale d'un certificat, et de la confiance dans les systèmes de l'infrastructure est liée aux autorités de certification qui ont le pouvoir d'émettre ces certificats donnés par une entité de réglementation. C'est-à-dire, l'infrastructure publique nationale est liée avec un certain type d'adéquation et je veux savoir comment cela est lié. Je voudrais savoir si un certain type de compatibilité ou pas. C'est John Caron qui parle. Vous posez une question légale et moi, je ne suis pas avocat. Une fois dit ceci, dans le processus d'exploration des aspects pour l'émission des certificats RPKI, il semblerait bien que chaque pays a son propre cadre pour la validité légale d'un document avec une signature numérique. Cela signifie que les RIR, lorsqu'ils émettent ces certificats, enfin, nous nous assurons que nous pouvons savoir la signification de ces certificats. C'est-à-dire, nous parlons du possesseur d'une ressource et ce que ce possesseur considère ou à quelle entité il donne la possibilité de mettre en route, de faire le routage de ces certificats. Je sais que dans certains pays, il y a des juridictions nationales qui font ces certificats et leur rendent équivalent aux documents signés émis par le registre. Cela a des implications pour les registres qui émettent ces documents et cela fait que nous devons tous être très attentifs à la façon dont nous les mettons en route, nous faisons le routage. Mais cela est une situation qui est définie pays par pays. Je ne peux pas donner une réponse générale. Je peux dire cependant que les fournisseurs des services dans les pays qui émettent ces certificats doivent pouvoir comprendre qu'ils émettent donc parfois des documents qui ont la même force légale. C'est l'Uruguay qui prend la parole. Si l'ISP a une responsabilité légale au cas où il commettrait un délit en tant que ISP, le cadre légal dans lequel nous travaillerions, c'est le cadre national. Et ce cadre légal est réglementé par ces lois nationales et ces lois nationales ont une infrastructure nationale. Pour l'une des questions, donc, que peut faire le GAC pour essayer de résoudre cela? Avoir peut-être une certaine compatibilité, établir une certaine compatibilité entre les cadres nationaux pour pouvoir donner une base légale au travail que l'on fait avec les ISP au niveau local. Mais je crois que nous devons avoir davantage d'informations de votre part pour pouvoir savoir comment travailler chacun de nous dans nos propres pays. Je suis d'accord. Lui, c'est Karen, qui dit qu'il est d'accord. Madame la Présidente, cède la parole à Raúl Echeverría. C'est Raúl Echeverría qui parle. En ce qui concerne Arin, il s'agit d'une infrastructure séparée. Les certificats émis dans ce cadre n'ont pour objectif que l'utilisation, leur utilisation pour le routage. Donc, il n'y aura pas de transaction dans l'utilisation de ces certificats. Les ISP ne vont pas se servir de ces certificats pour faire des transactions au niveau local et il n'y aura aucune responsabilité légale à cet égard. Ils vont utiliser cette information seulement pour savoir si le réseau qui annonce un bloc d'adresse Internet est le réseau qui a l'autorité pour le faire ou pas. Cela va permettre de prendre une décision sur le routage et rien d'autre. C'est pour cela que ces certificats ne vont être utilisés dans aucun pays pour aucun objectif réglementé dans le cadre légal de chacun des pays. Je ne sais pas si cela répond à votre question. C'est l'Uruguay qui reprend la parole. Au cas où l'ISP n'utiliserait pas de façon incorrecte le routeur pour utiliser le réseau ou pour endommager le réseau. C'est Geoff qui parle. Il y a beaucoup de certificats. Il y en a qui sont utilisés dans le système des noms de domaine pour les sites web HTTP et d'autres sont utilisés pour démontrer l'identité des citoyens d'un pays. De façon conventionnelle, nous trouvons que normalement, les certificats qui ont un intérêt national réglementaire sont des certificats qui prouvent l'identité et le rôle des gens. Mais les certificats peuvent faire bien plus que cela et ceux avec lesquels nous travaillons sont des certificats beaucoup plus semblables à ceux qui sont utilisés dans le système des noms de domaine. Quant à l'association d'un nom de domaine avec une adresse IP pour les sites web sûrs, de façon conventionnelle, ces certificats qui tombent directement dans le cadre réglementaire légal par eux-mêmes, de manière conventionnelle, ont dans beaucoup de cadres un plus fort lien avec les pratiques nationales de l'industrie. Nous dirions que ces certificats qui ne prouvent pas l'identité, qui ne prouvent pas le rôle joué, mais qui associent deux clés, ont une réflexion d'un appareil technique qui est différent d'un rôle. Donc, il se rapporte plutôt au domaine réglementaire qui parle des artefacts techniques et les questions techniques telles que les certificats de domaine qui sont différents des certificats d'identité ou des certificats de rôle. Je ne vois pas donc quel est l'intérêt de réglementation dans ce type de choses, comme c'est d'autres cas. Nous allons devoir écouter notre dernier orateur. J'espère que cet échange pourra continuer offline et nous allons pouvoir continuer à parler de cela dans l'avenir au sein du GAC. C'est le Royaume-Uni qui prend la parole et enfin nous allons clore la séance. C'est le Royaume-Uni qui prend la parole. Merci Madame la Présidente et merci de la présentation. C'est très utile pour nous et cela est un complément pour l'information reçue en Europe de la part des gouvernements européens. C'est ce que on nous avait dit en ce sens-là, RIPE NCC nous l'avait dit, et cela nous rappelle que le routage sûr continue à être notre objectif. Pour la communauté, nous espérons que ce but pourra être atteint. Et d'après ce que je me rappelle, selon les rapports européens que nous avions reçus, il était clair que toute l'industrie n'était pas en ligne avec certaines des réponses que vous aviez données ici. Je parle des ISP, bien sûr. Pour les gouvernements, il est évident que nous devons continuer à voir si l'industrie, enfin, ne parle pas d'une voix unanime. Et lorsqu'il s'agit de voir ce que nous pouvons faire pour promouvoir la sensibilisation et la prise de conscience, nous avons un peu la sensation d'avoir une seule main disponible. Et nous disons à l'industrie, OK, il faut trouver une manière d'aller de l'avant. Je connais Ripe NCC et il nous montre le travail qu'il fait dans ce domaine et quels sont les rapports. Nous allons avoir assurément davantage d'informations sur ceci lorsque nous nous réunions à Amsterdam, lorsque nous nous réunions avec eux. Il y aura aussi d'autres RIR qui vont nous donner de l'information. Au ministère où je dirige le conseil technique, les points techniques, je veux poser deux questions de base qui ne sont pas techniques. D'abord, si l'extensibilité du système de noms de domaine qui a des milliers de GTLD possibles pour les prochaines années, 10 années à venir, et qui va permettre d'ajouter, d'ajouter plus d'urgence à ces travaux. Et ensuite, la deuxième question, c'est pourquoi la mise en œuvre du RPKI n'aura pas d'impact significatif sur l'abus du système de DNS, d'usage frauduleux du système de DNS. Merci beaucoup. C'est Geoff qui parle. La question est simple, la réponse ne l'est pas. Les noms et les chiffres fonctionnent de manière différente et séparée dans ce cas particulier. Et l'expansion de l'espace des noms dans les nouveaux GTLD n'a aucun lien avec ces ressources de RPKI. Ils sont complètement séparés, ils n'ont aucun lien. La question de l'extensibilité, de l'augmentation de l'insécurité sur Internet est très intéressante. Il y a 15 ou 20 ans, l'insécurité était le produit d'un enfant de 15 ou 16 ans, très aventurier, qui n'avait rien à faire pendant l'après-midi. Maintenant, lorsque nous voyons la sécurité, nous voyons que cela est devenu une industrie criminelle, mais une industrie en fin de compte. Et bien sûr, avec la valeur des transactions sur Internet, modifier l'opération normale d'Internet de façon malicieuse, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les joueurs qui ne peuvent pas et qui ne méritent pas et qui ne jouent pas de façon légitime et qui ne méritent pas notre confiance. L'attaque au routage, c'est quelque chose que l'on peut faire avec des ressources et des connaissances et qui peut être une attaque très efficace. On peut attaquer des points spécifiques sur le réseau ou bien on peut élargir l'effet d'une attaque. Ce n'est pas une situation confortable et certainement il y a des mesures à prendre pour assurer le routage qui ne sont pas mises en œuvre parce que nous n'avons rien à faire la semaine prochaine, mais tout simplement parce que nous avons un agenda vraiment très chargé. Donc l'infrastructure de la sécurité est le plus terrible de problèmes auxquels nous devons faire face. Tout le reste peut fonctionner comme il le faut, mais si l'infrastructure... Si le triangle va dans la mauvaise direction, le triangle avance de toute façon, mais certainement, nous voyons qu'il y a une mise en œuvre comme un facteur d'atténuation des questions potentielles sur lesquelles Internet peut être modifié de façon malicieuse. Donc, quel est l'effet de la base criminelle ou d'autres modalités de criminalité organisée? Voilà, c'est important. C'est Madame la Présidente qui prend la parole. Je vous remercie. Comme d'habitude, je remercie le NRO, la ASO d'avoir présenté ce thème. Il y a eu un haut niveau d'intérêt qui a été exprimé. C'est pour cela que je ne voulais pas interrompre le débat. J'espère que nous pourrons revenir sur ce thème dans l'avenir et je vous remercie encore une fois. Pour le GAC, nous ne sommes pas bénéficiés par des déjeuners très courts, donc je suggère de revenir à 3 heures moins le quart et nous allons reprendre notre agenda à 3 heures moins le quart. J'espère que vous auriez un bon appétit.